Bonsoir à tous, il est tout juste 20h01 et tout de suite on va pouvoir écouter une nouvelle émission de Génération Sport. Alors malheureusement, on n'aura pas de générique, en tout cas pas tout de suite. On va pouvoir procéder d'une manière un peu différente avec donc on va d'abord présenter les chroniqueurs qui sont autour de moi, autour de la table. On est le 1er novembre, c'est un jour férié, mais l'équipe de Génération Sport n'arrête jamais de travailler et est bien présente aujourd'hui. Cédric est bien là, à ma droite. Salut Cédric.
Salut tout le monde. On aurait pu essayer de doubler le générique à la voix, mais bon, c'était hier les horreurs, hein. C'était hier Halloween.
Effectivement,
donc...
ouais. Ça a fait Halloween de ton côté ou pas?
Ouais.
Tranquillement.
Petite soirée dans un bar à pirates.
Ça marche.
Ouais, petite soirée sympa.
Voilà, c'est toujours cool.
Puis en plus, les gens ont joué le jeu, ça se déguisait.
Tant mieux. Faustin, toi, t'as fait Halloween ou pas?
Non, malheureusement.
Non.
J'ai offert des bonbons aux gens qui venaient toquer à ma porte.
Voilà.
C'est tout.
La générosité avant tout.
Exactement.
J'espère que t'as mis un petit mot. Écoutez-moi demain en remerciement.
J'ai oublié, malheureusement.
Ah là.
Bah, en tout cas, s'ils nous écoutent quand même, on leur passe le bonjour. Bon petit week-end. Alors, t'es censé aller voir UFAB Lattes Montpellier. Ça ouais. C'est malheureusement pas pu se faire puisque tu t'es bloqué le dos, c'est ça?
Ouais, exactement.
C'est donc Laza Basket qui perd l'un de ses meilleurs joueurs du club. Donc ça fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça.
On essaiera de mener l'enquête, hein, de savoir véritable blessure ou scandale au sein du club.
Peut-être qu'il veut disputer la Coupe du Monde, enfin ouais, un truc comme ça. Bref, donc voilà pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner jusqu'à 21h. Voilà, l'actualité plutôt dense ces derniers temps, et puis elle va l'être encore plus avec la Coupe du Monde qui arrive. Donc voilà, on verra ce qu'on peut faire pour couvrir cet événement évidemment mondial. Alors pas de nouvelles de notre générique qui décide de ne pas venir entre guillemets. Voilà, bref, c'est les aléas du direct, c'est les aléas de Radio G tout simplement, mais c'est pas grave. Bref, on est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale, internationale. Comme la semaine dernière, comme dans pas mal d'émissions, on va dans un premier temps revenir sur le local, on passera une petite pause musicale et on débouchera sur l'international. Messieurs, je vous propose de commencer, puisque effectivement le générique ne veut toujours pas se mettre. On va commencer avec le SCO, puisque les semaines se suivent et se ressemblent pour le SCO en Ligue 1. Toujours dernier au classement, la situation angevine n'a pas changé avec cette nouvelle défaite 2-0 du côté de Monaco. La première mi-temps est tout de même plutôt satisfaisante avec un pénalty provoqué par Unou, mais annulé après vérification à la VAR. Et ainsi, un but de Azedine Ounahi refusé pour hors-jeu. En fin de première, Ibrahim Amadou, de nouveau titularisé en défense centrale, il provoque un deuxième pénalty en deux matchs. On se souvient notamment de celui qu'il provoque aussi en fin de match contre Rennes la semaine dernière. Yaya Fofana donc repousse le tir de Ben Yedder et le SCO donc repart au vestiaire sans prendre de but et en ayant été un peu dangereux. Malheureusement, les hommes de Gérald Baticle vont craquer en deuxième période avec l'ouverture du score du Suisse Brelem Bolo et un quart d'heure plus tard, c'est le Russe Golovin qui enroule parfaitement sa frappe en lucarne pour doubler la mise. Cinquième défaite de rang pour les Noirs et Blancs qui affronteront donc Lens à Raymond Kopa samedi prochain, ce sera à 21h. Messieurs, encore, je vais me répéter. Gérald Baticle encaisse sa cinquième défaite consécutive, je crois à la huitième de la saison. La semaine dernière, c'était à la huitième, je crois. Bref, sûrement, voilà, huit ou neuvième défaite de la saison. Le SCO est toujours bon dernier de Ligue 1, avec seulement 8 points en 13 journées. C'est évidemment très peu. La question, c'est même pas est-ce qu'il va être viré, c'est quand est-ce qu'il sera viré. Est-ce que ça vous surprend peut-être que ça met autant de temps à ce que l'équipe prenne tout simplement que la sauce Baticle prenne un petit peu dans le club et dans l'équipe, ou est-ce que vous êtes surpris du fait que ça soit, il y a toujours pas de changement?
Il y a pas le temps de réfléchir au problème. Attends, il a fallu écrire deux démentis. Te rends compte?
Oui, ça c'est une affaire aussi, on peut en parler, mais...
Il a fallu faire deux démentis pour la même histoire.
Ah, c'est assez fou.
Donc forcément, ils n'ont pas le temps
de réfléchir.
De réfléchir. Ouais. Bon, ce qui prouve un peu...
Mais
le...
Peut-être, par contre, qu'ils sont en train de défendre leur futur entraîneur aussi. Faut
peut-être,
penser à ça.
Peut-être. Mais en tout cas, enfin, voilà. Bon, en tout cas, c'est pas lié à la situation du SCO professionnel, mais voilà, on voit que le club est vraiment dans la détresse, que ce soit dans la qualité du jeu, que ce soit sur le résultat et dans les à côté. Ça fait des semaines, hein, que de toute façon, on se rend compte qu'on va droit dans le mur. À un moment, bon, sur Monaco, on se doutait que ça allait être compliqué. Et ça sera encore plus compliqué, je pense, la semaine prochaine. Mais voilà, enfin, je pense que ça va se finir Coupe du Monde, licenciement, logiquement. Enfin, je vois pas comment. Est-ce que c'est réellement un problème d'entraîneur? Je me pose la question quand même. Il est pas fautif à 100%. Il y a ce.
Je pense qu'il est pas irréprochable. Après, non. Effectivement. T'as raison. Souvent, des fois, on a tendance à accuser l'entraîneur un peu trop.
C'est ça. Puis bon, faut pas oublier que ça reste quand même un jeune entraîneur, on va dire, même s'il a quand même des années en
numéro 1.
En numéro 2, voilà.
Oui, en numéro 2, oui.
Mais, voilà. Qu'il fasse des erreurs, ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais le problème, c'est qu'on lui a pas donné aussi les moyens.
Ouais.
Après, on saura jamais réellement. Qui a fait venir ces joueurs-là, si c'était une volonté de sa part, si c'est une volonté aussi de l'entourage, de faire venir voilà des joueurs jeunes qui coûtent moins cher. Enfin, c'est vrai que ce projet, quand on sait que cette année c'est une année vraiment plus que charnière, on voit un peu les dégâts.
Ouais, quand tu parles d'un ADN charnière, c'est aussi rentrer dans l'élite de la Ligue 1 du football français et rester en tout cas, montrer qu'on est là depuis 2015 et qu'on est là pas par erreur et qu'on mérite clairement d'être là. Et malheureusement, c'est en train d'être un peu de partir à volo.
Et puis, on pourrait dire oui, c'est une question de budget, mais au final, Lorient, qui a un budget équivalent,
ouais, c'est vrai.
A fait un meilleur recrutement. Et largement devant.
Et d'un côté aussi, un meilleur entraîneur qui avait des idées, qui a un jeu offensif, etc. Mais aussi, on peut dire aussi qu'il y a quand même des bons joueurs. Il y a Salama, il y a Boufal, il y a Unai, il y a Bentaleb. Il y a deux gardiens français qui sont en tout cas pour Bernardoni qui a été un espoir, mais en tout cas pour Fofana qui est un espoir du poste de gardien en France. Donc il y a quand même de la qualité. Il y a des gros trous en défense, par contre, on peut pas le nier. Toi, Faustin, quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça va se faire ou ça doit se faire?
Je pense que ça doit se faire. Après, quand ça va se faire, c'est plus compliqué de le savoir. De mon point de vue, je dirais que il sera viré au début de la trêve pour que s'il y a un nouvel entraîneur qui arrive.
Voilà, ce serait la logique.
Voilà, il ait le temps aussi de comprendre le nouveau groupe à qui il arrive, le nouvel entraîneur. Si ça se fait pas là, ça risque d'être jamais, quoi, j'ai envie de dire.
Ouais, parce qu'il y a aussi la dimension, on avait déjà parlé dans les émissions précédentes, c'est la dimension de payer un licenciement. Ouais. Et on sait que le SCO est un peu proche de ses sous, et que, en tout cas, fais attention qu'on dépense. Et il y a ça qui est en jeu, c'est de dire ça va coûter cher un licenciement à un entraîneur qui est en contrat pendant encore 2 ou 3 années, quoi. Donc évidemment ça peut rentrer en ligne de compte. Moi je trouve que l'affaire avec Ouest-France, donc on peut en parler. C'est assez révélateur effectivement de la façon dont est géré ce club actuellement. Donc pour vous parler de l'histoire, en gros Ouest-France, je crois qu'on a déjà parlé la semaine dernière ou pas? Je veux pas me répéter.
On l'a évoqué, mais pas forcément dans les grandes lignes.
Donc en gros, l'histoire, c'est que donc l'un des coachs des jeunes, notamment celui qui coachait l'équipe qui a été en Youth League l'année dernière, donc c'est Abdel Bouazama. Cet homme donc fait l'objet d'un article dans Ouest France qui a été paru il y a 2 semaines à peu près, dans lequel on met en cause donc ses qualités pas l'entraîneur, mais plutôt de pédagogue,
de manager,
de pédagogue, de relations avec les jeunes. Et en fait, on dit qu'il a des méthodes très dures. Il faut savoir que c'est basé sur des témoignages de gens qui ont témoigné parfois anonymement, parfois pas anonymement. Et donc, le SCO a immédiatement, donc comme tu l'as dit, a fait plusieurs communiqués. Un communiqué sur les réseaux par l'intermédiaire de son directeur de communication, Mohamed Sifaoui. Et récemment, donc hier, un droit de réponse qui a été publié dans Ouest France, un très long texte de Saïd Chaban qui remet en cause les témoignages déjà dans un premier temps des plaignants entre guillemets, et en plus en disant en gros s'ils ont pas été pris, si on les a pas retenus, c'est parce qu'ils étaient en gros ils avaient pas le niveau quoi, ils étaient et que ça sert à rien qu'ils aillent se plaindre dans la presse parce que franchement c'est juste qu'ils avaient pas le niveau. Donc il y a un peu voilà, on accable un peu les potentiels victimes d'abus mais en tout cas de pression psychologique durant cette formation au SCO. Et donc voilà, on surinterprète le message de Ouest France. Donc voilà, il y aura des mauvaises relations entre la presse et le SCO. Ouest France qui est quand même hyper important pour un club comme le SCO, qui en parle évidemment chaque jour dans son journal. Donc voilà, c'est un autre aspect en plus de la façon dont est géré le club, et aussi ça montre aussi la façon dont on gère la panique. On gère la panique sportive de cette manière, on gère la panique médiatique de cette manière. Et donc voilà, ça, t'as raison de le dire, c'est un peu révélateur de leur attention qui malheureusement n'est pas tournée vers le terrain, n'est pas tournée vers des recrutements, et plus tournée vers actuellement de la communication et de remettre la faute aussi sur les médias. Donc voilà, c'était une chose intéressante à dire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose justement sur le SCO?
Non, on va attendre gentiment, je pense, je t'ai dit, la trêve. Là.
Et puis, ouais, Lens qui peut arriver, parce que ça peut être une nouvelle défaite à domicile.
Ouais, enfin, quand on voit le niveau de Lens, j'ai vraiment du mal.
Ah, bah oui, non, mais je suis d'accord. Ça peut être une nouvelle défaite, quoi.
C'est ça, oui.
Sûrement même.
J'avais cru t'avais dit une défaite de Lens, c'est pour ça.
Non,
dans ce sens-là, oui.
Je suis pas aussi optimiste. Ouais. Mais c'est plus à voir après ce qui se passe après Lens. Puisqu'après Lens, il n'y aura plus qu'un match avant la Coupe du Monde et peut-être qu'on aura une réponse pour Baticle. Bref, en tout cas, voilà pour le SCO. Évidemment, vous le savez, on va suivre ça semaine après semaine. Je vais vous parler d'un autre SCO, le SCO Handball, qui est bien plus en forme que ses homologues footballeurs, puisque les joueurs d'Issam Tej sont toujours invaincus après 8 journées de championnat. Les Angevins sont toujours premiers de N1 Elite et devraient, sauf retournement de situation, rejoindre la Pro League l'année prochaine. Ne leur portons pas la poisse non plus, peut-être que je m'emballe, mais en tout cas, cette saison du renouveau part très bien pour le SCO, qui a encore gagné ce week-end. Faustin, ça va être à toi. Tu vas nous parler des équipes de basket du Maine-et-Loire avec donc l'EAB, l'UFAB et Cholet. Je te propose de commencer avec l'EAB, si c'est possible.
Exactement. Donc l'EAB.
L'EAB, c'est l'actu la plus fraîche.
Exactement. Je vais quand même revenir sur la semaine dernière.
Bien sûr, tu as totalement raison.
De finir, ils jouaient le match aller du quart de finale de Leaders Cup contre Chalon. Et ils ont gagné ce premier match 72 à 67 et le match retour a eu lieu aujourd'hui à 17h. En cas de victoire, ça signifierait une qualification pour les demi-finales et c'est chose faite. Après un match très très serré mine de rien face à Chalon, les Angevins s'imposent quand même 85 à 83 et se dirigent donc vers les demi-finales et on saura ce soir à l'issue des matchs s'ils joueront contre Nantes ou contre Saint-Vallier. En championnat, ils sont là aussi imposés à domicile contre Aix-Maurienne sur le score de 85 à 77. Les Angevins font un bon début de saison avec deux victoires et une défaite.
Donc voilà, ça commence bien plutôt pour l'EAB, que ce soit en Pro B et en Leaders Cup.
Exactement.
On passe sur l'UFAB.
Ouais, l'UFAB qui a démarré sa saison avec un match de recoupe et malheureusement une première lourde défaite face au Flamme Carolo de Charleville-Mézières. Une défaite 89 à 60 pour ce premier match d'Euro. Elles ont ensuite joué samedi soir leur premier match de championnat que j'aurais dû aller voir face à Montpellier. Elles se sont là aussi inclinées cette fois-ci sur le score de 64 à 70. À voir ce que ça va donner pour les prochains matchs, si ça continue sur cette lancée ou non.
Je crois qu'il y a un match d'Eurocoupe qui arrive très bientôt. Hein.
Ouais,
c'est bah, c'est cette semaine d'ailleurs.
Ouais,
et puis, je crois que c'est à domicile en plus.
Ouais,
donc voilà, c'est vrai qu'on verra pour l'UFAB. Je pense qu'ils sont toujours en rodage. Hein. C'est encore voilà, mais ça devrait pas poser de problème. La Montpellier a encore des bonnes choses, hein, même si ouais. Bah, il y a deux ans, la Montpellier était vice-champion de France. Donc voilà, il y a eu une petite saison d'adaptation l'année dernière. Mais voilà,
pour c'est pas une si grosse défaite.
Oui,
en soi, pour un premier match, voilà.
Ouais, c'est clair.
Contre une grosse équipe. On passe à Cholet.
Ouais, Cholet qui signe encore une victoire en Betclic Elite, cette fois face à Paris, sur le score de 75 à 66. Il se retrouve quatrième du classement de Betclic Elite en ce début de saison, avec donc 5 victoires pour une défaite. Ils ont ensuite joué leur premier match de Coupe d'Europe qui a lieu en ce moment. Je crois qu'il démarrait à 17h. Elle est peut-être finie, je vais regarder ça. Hop.
Mais...
C'est là.
En tout cas, en Belgique Elite, tout se passe bien.
Oui, tout se passe très bien. C'est quatrième. C'est un super début de saison. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas démarré comme ça.
Bah, bien sûr.
On aurait pu croire qu'ils démarraient moins bien avec la perte de Johan Makoundou.
Oui, c'est
mais
vrai.
Finalement, ça se passe très bien. Et je me suis trompé. Le match est demain en Eurocoupe contre Oradea. C'est le premier match des phases retour.
Ok. Voilà. Ah oui, c'est en FIBA Coupe d'Europe,
c'est ça ? Oui, c'est ça.
Coupe d'Europe de la FIBA, d'accord. Eh bien voilà, donc Cholet Basket qui est définitivement en forme. L'équipe en forme de ce début de saison du côté du basket en Maine-et-Loire. On va passer, comme d'habitude, au hockey. Les Ducs d'Angers ont perdu le classique de Ligue Magnus contre les Dragons de Rouen, 6 buts à 4. On avait vécu un petit peu le début de la rencontre, donc ensemble, il y a une semaine. Bon voilà, défaite avec des buts, en tout cas, il y a eu des buts. Et puis, vendredi, les Angevins se sont rattrapés à domicile contre les Pionniers de Chamonix, 4-1. Et au classement, donc, les Ducs sont retombés un petit peu à la quatrième place après 14 matchs disputés.
Oui, sachant que devant, ils ont à peu près entre 1 et 2 matchs, quoi, de retard.
Ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un match prévu, Cédric, prochainement là?
Ouais, ça va arriver vite, hein, parce qu'on sait que de toute façon, on va avoir le match délocalisé à Cholet déjà pour la Coupe de France.
Après, on enchaînera sur l'Europe avec un déplacement à Cardiff, au Pays de Galles. Donc voilà, c'est un mois de novembre qui est en tout cas très chargé. Hein.
Ouais, bah octobre était déjà bien chargé et novembre est à nouveau chargé. Bon, tant que c'est chargé, ça veut dire que c'est bon signe quand même.
Hein. Ouais.
En tout cas pour les deux compétitions, voilà, entre la Coupe de France et la Coupe d'Europe. Mais voilà. La défaite à Rouen, on va dire, c'est les classiques, hein, généralement. C'est toujours des matchs disputés.
C'est dur de gagner là-bas, quoi.
C'est voilà. Mais en tout cas, bon, y a pas non plus le feu dans la maison des Ducs, quoi. Donc,
non, tout va bien quand même.
C'est ça. Et bah, le prochain match, oui, c'est ça. C'est demain.
C'est demain, et du coup.
C'est demain, c'est le match de la Coupe de France.
Ah, c'est demain, la Coupe de France.
Délocalisé, du coup.
Et moi, voilà. Donc contre Bordeaux.
Voilà. Donc,
la petite revanche des Bordelais.
Je pense oui que les Bordelais ils doivent avoir encore cette défaite
en demi-finale de Coupe de France.
En tête et voilà que ça peut promettre.
Ça va être sympa.
Quelque part c'est un match qui va jouer un peu sur terrain neutre hein, au final puisque
oui,
même si voilà Cholet a quelques minutes d'Angers quoi.
Ah une heure de route ouais.
À peu près oui. Voilà, donc ça, je sais pas comment ça va donner en fait en termes d'ambiance, sachant que la patinoire est un peu plus petite.
Ouais.
En tout cas, voilà, on sait que les différents COP vont faire le déplacement. Il y a l'air d'avoir quand même un engouement, même si le match voilà est délocalisé. Il y a l'effet côté vacances aussi, donc c'est bien, ça va peut-être amener un nouveau public aussi, de curieux, des familles qui vont venir. Donc non, en tout cas, voilà, ça va être très bien aussi pour Cholet pour mettre son équipement en avant donc
ouais.
Il y a plus que voilà à jouer puis ouais, on espère quand même une victoire des Ducs pour continuer quoi.
Carrément. Eh bien voilà pour les actus locales. On va passer à la pause musicale. Alors pause musicale, j'ai eu l'idée tout simplement en début d'émission. pause musicale un peu spéciale. En fait, bon, elle va s'expliquer de deux manières. Dans un premier temps, on va écouter Jump de Van Halen, qui vous allez reconnaître, c'est le générique de l'émission. Sauf que
non.
Le générique de l'émission.
J'avais jamais remarqué.
Non, mais je parle aux auditeurs. Mais en tout cas, voilà, c'est le générique de l'émission. Le générique de l'émission qui est fait sans voix. Bon, là, il y aura la voix. Donc voilà, je le mets déjà parce qu'on n'a pas pu le diffuser en début d'émission. Et puis, surtout parce que ce soir, il y a un grand rendez-vous pour Marseille. Bah,
très important. Oui.
Et ce titre, effectivement, est important pour l'Olympique de Marseille. C'est leur titre d'entrée. D'ailleurs, dans 39 minutes maintenant, il y aura ce même titre qui sera mis dans les enceintes du Vélodrome. Donc voilà, on va pouvoir...
Ça fera plaisir à un ancien Marseillais de l'équipe.
Exactement, ouais, on lui passe le bonjour, Max. Bon, voilà. On se retrouve juste après, puis voilà, on est de retour dans quelques minutes. C'était donc Van Halen avec le titre internationalement connu Jump. Voilà, donc effectivement, comme on l'a dit, c'est un titre qui sera diffusé à Marseille dans quelques minutes. Et puis voilà, c'est l'occasion aussi de découvrir notre générique sous un autre angle, avec voilà une autre interprétation entre guillemets, puisque c'est l'original tout simplement. Bref, voilà pour la pause musicale. On va passer donc aux actus internationales. Il y a pas mal de choses à dire. On va parler de football, de handball, de tennis, de rugby, de Formule 1, de basket évidemment avec Faustin. Donc voilà, ça fait un programme assez chargé. On commence comme d'hab avec le foot. La Ligue 1, donc c'était la 13e journée. On en a parlé un peu avec le match du SCO contre Monaco. Lens, en ouverture de cette 13e journée, a battu Toulouse 3-0 avec ce triplé de Loïs Openda. Paris a eu du mal à se défaire de 3, mais s'est imposé quand même 4-3. Strasbourg a fait match nul contre Marseille 2-2 avec ce magnifique but de Kevin Gamero en fin de match. Auxerre l'a emporté 1-0 contre Ajaccio. Rennes a battu Montpellier sèchement 3-0. Match nul entre Nantes et Clermont 1-1. Match nul entre Brest et Reims 0-0. Victoire de Nice à Lorient 2-1. Et puis Lyon qui s'est imposé 1-0 contre Lille. Le football, c'est surtout la Ligue des Champions qui a lieu ce soir. Vous en entendez parler un petit peu partout. Aujourd'hui, c'est le grand rendez-vous surtout pour l'Olympique de Marseille qui reçoit Tottenham et qui doit absolument gagner pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition et potentiellement terminer d'ailleurs premier de sa poule. Donc voilà, c'est vraiment une finale avant l'heure pour l'OM, comme un 16e de finale de Ligue des Champions. Sinon, dans les autres affiches, on va parler du match hein, évidemment, mais dans les autres affiches de la soirée, nous avons un Bayern-Inter, un Liverpool-Naples. Demain, on aura un très beau Juventus-Paris. Sinon, on aura City contre Séville, le Real contre le Celtic Glasgow et l'AC Milan qui joue sa qualif contre le Red Bull Salzbourg. Et puis donc, on va revenir sur ce match important entre Marseille et Tottenham. Qui se déroulera donc, on l'a dit, au Vélodrome. Les hommes d'Igor Tudor qui vont donc défier les Londoniens avec une composition d'équipe assez classique, hein, ce qui ressemble un peu à un 11 type. Alors que mon écran vient de s'éteindre sous mes yeux, pas de souci. Bref, donc le 11 type de l'OM avec Paulo Lopez donc dans les buts, une défense à 3 avec Mbemba, Bailly et Balerdi. Du côté des pistons, on aura comme d'habitude Klose et Tavares. On aura un entrejeu composé de Rongier et de Veretout. En une attaque avec Guendouzi, Harit et Sanchez. Et du côté de Tottenham, on aura pareil le même système de jeu avec Lloris dans les buts. L'anglais Davis d'ailleurs dans une défense à 3. Les pistons, Cessegnon et Perisic. Un milieu Højbjerg et Bentancur et une attaque Lucas Moura, l'ancien parisien, Harry Kane et Heung-min Son. Donc voilà un peu pour les compositions d'équipe. Ce soir, messieurs, c'est un vrai rendez-vous pour l'Olympique de Marseille.
Oui. Ce qui est à noter aussi dans la compo de Tottenham, c'est que le buteur du match aller est blessé.
Oui, Richarlison. Ouais.
Voilà. Et il avait fait très mal à l'OM sur les coups de pied arrêtés, entre autres. Puisque je crois qu'il met les deux buts de la tête, il me semble, de mémoire, voilà. Donc, ça enlève déjà peut-être une épine au pied des Olympiens. Mais voilà, ce soir, il n'y a pas à se poser la question, quelle que soit la manière, faut aller chercher cette victoire-là, parce que c'est quasiment aussi la saison de l'OM qui va peut-être se jouer. Hein.
Clairement, ouais, t'as raison.
Puisque là, c'est vrai que c'est un groupe... on s'attendait pas à ça non plus, mais
c'est très, très serré.
Tout va vraiment jouer là ce soir, quels que soient les matchs. Pour se qualifier, il faut impérativement gagner.
Ouais.
En cas de match nul, c'est peut-être la troisième place. Et en cas de défaite,
c'est fini.
C'est fini. Et d'habitude, généralement, tu te dis bon, match nul, voilà, ça passe, ça te protège bien.
Ouais.
Même là, avec le match nul, ce sera peut-être pas sûr.
Marseille, ce soir, peut terminer premier comme dernier.
C'est ça, voilà.
Les quatre équipes du groupe se tiennent en tout simplement 2 points. Donc, c'est assez serré, donc c'est assez inédit de voir cette situation-là. Donc,
logiquement, on devrait pas voir, je pense, l'OM de la semaine dernière, hein, qui a eu du mal vraiment à se mettre dans le jeu, qui a eu peur, je sais pas trop quoi, de l'enjeu, mais voilà. Ce soir, je pense que les gens qui vont être au stade, ils veulent voir qu'une chose, c'est des requins sur le terrain qui
se battent,
qui vont mouiller le maillot, qui vont défendre cette étoile. Enfin, c'est
dans ces matchs-là, il y a plus de matière à réfléchir. Faut juste mouiller le maillot et montrer.
C'est vrai. Alors, est-ce que les joueurs vont, mais quels que soient les deux côtés, hein, parce que de toute façon, Tottenham aussi a
Tottenham joue sa qualif également.
Voilà. Et il y a ce spectre aussi de la Coupe du Monde derrière.
Bien sûr.
Alors, est-ce que les joueurs réellement vont donner tout à fond au risque d'aller chercher une blessure?
Ouais, on a pas mal de joueurs qui sont en balance sélection.
Ça va être tout ça mélangé. Alors, soit on va se faire chier, permets-moi l'expression. Et ça va être un match serré et ça finira sur un vieux 0-0.
Ouais.
Soit ça va être un match de folie où il va avoir des buts dans tous les sens. C'est
soit l'un, soit l'autre.
Là, voilà, ouais,
c'est... Après, c'est vrai que Tottenham est quand même une équipe défensive qui peut marquer, mais qui est quand même assez défensive. Sur le match, quel est votre pronostic? Est-ce que vous voyez l'OM se qualifier? Qu'est-ce que vous voyez déjà comme résultat sur l'unique match? Parce qu'après, la qualif, c'est autre chose. Faustin, toi, qu'est-ce que tu vois?
Moi, j'aimerais bien voir l'OM gagner. Je pense qu'il ferait quand même fermer pas mal de bouche au début de leur phase de groupe, qui disait qu'ils sortaient les stades de je sais plus combien de défaites de la Ligue des Champions. Mm-hmm. Du coup, je les verrais bien un bon 2-1.
Ok, un bon 2-1.
Où ils gagnent 1-0, retour, but de Son.
On se dit là, c'est voilà. Compliqué. Et puis en fait.
Et ouais, but à la 85e.
Oh là là, un scénario de fou.
Exactement.
Cédric, toi, qu'est-ce que tu en penses?
Au final, je sais pas si une qualification. Alors, une qualification à 8e, ce sera super cool. Mais si c'est pour faire juste deux matchs et puis.
Ah, comme Lille l'année dernière, quoi.
Voilà, on s'en va. Est-ce que finalement la troisième place et le repas est peut-être plus accessible à ce groupe?
Bah, peut-être que d'un côté aussi, la pire place, c'est la deuxième. Parce que si t'es la première, si tu termines la première place, tu peux jouer contre un deuxième de groupe.
Oui.
Tu peux tomber contre.
Qui est potentiellement plus faible.
Voilà, c'est ça.
En tout cas, sur le papier.
Sur le papier, parce que bon.
Maintenant, on sait que maintenant, de jouer de toute façon en premier à l'extérieur ou à domicile.
Ça veut plus rien dire.
Ça veut plus rien dire, puisque heureusement. Il n'y a plus cette règle du but à l'extérieur, voilà. Mais c'est. Alors, bien sûr, bon, en termes d'indice UEFA, je pense que c'est mieux quand même aussi d'aller en 8e.
Ouais.
Mais voilà, c'est. Il faut voir aussi, parce que bon, si c'est pour, derrière, ne pas pouvoir les jouer, et puis bah, ça fera encore un club de moins. À voir. Mais en tout cas, ouais, faut au moins qu'ils puissent se qualifier dans une des deux coupes, quoi.
Et du coup, sur le match, un pronostic? Victoire, défaite, nul?
S'il y a une victoire, j'aimerais bien, un 2-1 ou quelque chose comme ça. Ça voudrait dire qu'il y aurait eu quand même.
Des buts.
Des buts, c'est que ça aurait un peu bougé. Sinon, j'ai un peu peur quand même qu'on finisse sur un vieux 1-0 en 4 buts. Ouais.
Moi, je suis pas forcément de cet optimisme-là. En fait, bon, j'ai rien contre le fait que l'OM remporte et ce serait cool que l'OM remporte ce match et ils peuvent le faire. J'ai un feeling qui me dit que Tottenham est trop fort malheureusement et que ça va se voir et que enfin l'OM reste quand même sur 4-5 matchs sans gagner. Alors oui, tout peut se passer. Moi voilà, c'est pas arrêté comme pronostic, mais je vois plus Tottenham vraiment écraser le match. Peut-être pas un 5-0, je veux dire, mais plus voilà, de remporter en mode bon, voilà, on montre qu'on est le meilleur. Bref, ce sera à suivre.
Une donnée qu'on n'a pas dit aussi, c'est que l'entraîneur de Tottenham est suspendu.
Ah oui, on peut compter parce que.
Ok, voilà, il sera dans les tribunes.
Le match précédent, il y a eu un vrai imbroglio autour d'un but refusé à la dernière seconde et il a évidemment pesté.
Du coup, il est suspendu de vestiaire. Avant, pendant et après. Enfin, peut-être pas après, mais en tout cas, pendant et voilà. Donc, c'est une chose qui peut aussi jouer.
Ouais.
Surtout si le public marseillais. Mais une pression, voilà, ça, autant Conte, il est capable de gérer ça, de le prendre pour lui, et éviter à ses joueurs de prendre un peu la sauce.
Ouais.
Là, on sait pas si son adjoint aura les épaules pour, et voilà, enfin, même passer les consignes par téléphone. Alors ça, je trouve ça un peu inadmissible. Normalement, limite, j'ai envie de dire, il devrait même pas être au stade, quelque part.
Oui, oui.
Mais, ça, c'est encore l'UEFA, et le règlement, mais. Mais voilà, c'est une donnée aussi à prendre en compte et qui peut y jouer aussi.
Clairement. Sinon, donc pour la Ligue des Champions, je vais revenir parce qu'il y avait des matchs à 18h45. C'était la poule B qui se terminait, donc qui va se terminer. D'ailleurs, c'est pas encore totalement fini. Donc le groupe de Porto, de Bruges, du Bayer Leverkusen et de l'Atlético de Madrid. A priori. En début de compétition, c'était tous dit que l'Atlético de Madrid pourrait s'en sortir et devrait vraiment se qualifier. Actuellement, ils sont derniers de leur groupe. Voilà, ils perdent actuellement 2-0 contre Porto au Stadio de Dragao, qui est un très beau stade d'ailleurs. J'y suis allé, c'est vraiment un stade très chouette. En tout cas, donc Porto qui va terminer premier du groupe, vraisemblablement, et le club Bruges qui va être donc juste derrière et qui va créer la surprise un petit peu en se qualifiant à la deuxième place, et le Bayer Leverkusen qui sera reversé en Europa League. Donc voilà, ce sera intéressant de suivre ça.
Troisième club espagnol éliminé.
Ouais,
c'est limite historique quoi. Enfin,
ouais, bah c'est assez.
Séville, c'est pas des petits clubs en plus.
Ah bah Séville, c'est pas mal de d'Europa League. Le ouais. Barça, bon bah on sait.
Le Barça,
pas.
Voilà, c'est ça fait deux ans. Hein,
et puis l'Atlético, c'est quand même plusieurs finales dans les années 2010, donc c'est quand même pas rien. Voilà pour le foot.
Ce qui est bien, c'est que ça va ouvrir un peu plus. Peut-être voilà, la voix des outsiders dans ces huitièmes de finale.
Carrément, ouais, ça peut être sympa. Et donc, pourquoi pas l'OM qui peut saisir sa chance. On va parler maintenant un petit peu, on va rester sur le foot, on va parler un peu d'Europa League parce qu'on parle très peu des autres clubs français. Nantes, donc on va faire un petit point sur chaque situation. Tout va se décanter donc jeudi, dans deux jours. Du côté de Nantes, nos voisins nantais, ils peuvent se qualifier encore et ils iront au pire en Conference League. Ils seront forcément relégués au moins en Conference League. Donc c'est pas fini pour l'Europe. Au moins ils auront ces quatre. Ils peuvent encore quand même se qualifier. Il faut quand même, je crois qu'il faut qu'ils gagnent et puis il faut que l'équipe adverse perde. Enfin bref, il y a pas mal de choses comme ça. Enfin, en tout cas, l'équipe concurrente plutôt. Puis au niveau de Rennes est déjà qualifié. Normalement, il devrait terminer deuxième, mais bon, c'est rien n'est fait quand même de ce côté-là. Monaco ne doit pas perdre pour se qualifier. Voilà, ils doivent absolument, de préférence, gagner, mais en tout cas, ils doivent pas perdre pour rester en tout cas en Europe. Du côté de Nice joue clairement sa qualification. Nice qui est en Conference League, Nice joue sa qualification, je vais y arriver, contre les Allemands de Cologne. On sait que le match aller c'était pas forcément bien passé du côté des supporters, donc voilà, ils vont se déplacer en Allemagne pour jouer leur qualif en huitième de finale. On va passer au handball maintenant. À Nantes, l'équipe de France féminine de handball a terminé sa préparation à l'Euro 2022 par une victoire contre la Pologne 30-19. La compétition européenne arrive d'ailleurs à grands pas avec le premier match qui a lieu samedi à 21h contre la Macédoine du Nord qui est l'hôte du tournoi. Dans la poule, on retrouve aussi les Pays-Bas et la Roumanie que la France affrontera lundi et mercredi prochain. On va passer maintenant au basket avec Faustin. Faustin, tu vas nous parler dans un premier temps de Betclic Elite et puis après tu nous feras le point sur la NBA.
Ouais, alors en Betclic Elite, on a eu le droit à une situation inédite en termes de retransmission. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer.
Oui, je crois que j'ai vu passer.
Ouais,
c'est dû à un homme dont tu nous parles beaucoup depuis des semaines.
Exactement, c'est grâce à Victor Wembanyama que tous les Américains ont pu assister au match des Mets face à Bourg-en-Bresse sur l'application NBA qui retransmettait le match en direct pour les Américains et les Canadiens. Par exemple, nous en France, on ne pouvait pas accéder au match sur l'application NBA, il fallait juste aller sur l'équipe. Hein. Mais voilà, c'est une situation inédite pour voir à quel point le jeune français brille à l'international. Et il s'est pas fait prier parce qu'il a fini MVP du match avec 23 points, 10 rebonds et 4 contres. Il a largement contribué à la victoire de son équipe sur le score de 95 à 91. Que voilà, c'est les Mets qui ont subi qu'une seule défaite pour l'instant. Ils sont deuxième du classement de Betclic et Victor Wembanyama qui brille toujours autant. On peut aussi retenir que l'ASVEL a retrouvé la victoire à domicile face à Nancy. Il se place donc à la 8e place du classement, ce qui reste assez décevant pour eux au terme des 7 premières journées. Je vais passer à la NBA maintenant avec une info assez fraîche qui date d'il y a environ 3 heures car c'est le coach des Brooklyn Nets qui a été viré. Donc Steve Nash qui sera remplacé par l'ancien coach des Celtics, Ime Udoka. Les Nets avaient fait seulement 2 victoires pour 5 défaites en ce début de saison. Et notamment au dernier match des Nets donc qui s'est conclu par une victoire face aux Pacers. On a Kevin Durant qui est devenu le 19e meilleur scoreur de la Ligue en dépassant les 25 728 points de Vince Carter. On peut aussi retenir que les Lakers ont enfin signé leur première victoire. C'était face à Denver. Darvin Ham, le coach des Lakers, a peut-être trouvé la bonne solution pour utiliser Russell Westbrook, car pour la première fois, le joueur n'était pas titulaire, mais il a joué en tant que sixième homme. Il est donc rentré en cours de match, ce qui lui a permis de claquer 18 points, 8 rebonds et 8 passes dé, ce qui est complètement dans ses standards, et qui a donc permis aux Lakers de décrocher leur première victoire de la saison. À voir ce que ça va donner, s'ils vont rester sur cette dynamique-là en laissant Westbrook sixième homme, sachant que LeBron James et Anthony Davis ont eux aussi signé une très bonne performance pour aller signer cette victoire. Et pour terminer, je vais parler de Toronto, qui a gagné avec le plus large écart de ce début de saison, en s'imposant 139 à 109 face à Atlanta. C'est une belle claque qu'ils leur mettent. Ils sont en 4 victoires pour 3 défaites. Ils sont, il me semble, je vais regarder ça, ils sont 4e. C'est un très bon début de saison pour Toronto, là aussi.
Très bien, merci pour ce petit point basket avec donc la Betclic Elite qui est maintenant regardée aux États-Unis. Ça va faire du bien. Donc les Américains pourront voir la Mayray de chez eux, donc ce sera assez intéressant. Et voir les talents qu'on a en France, évidemment. Donc voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a un seul homme qui les intéresse.
Ouais, j'ai l'impression.
Vraiment, ils sont focus sur Victor Wembanyama.
Et on sait quand est-ce qu'il pourrait potentiellement partir là-bas ou...
Bah, ce serait à la draft, là, 2024. C'est prévu pour cet été.
Pour cet été, du coup, ouais. Donc, si ça peut encore mettre un peu plus de lumière, par contre, ça veut dire que pour la diffusion en France, ça va sûrement faire augmenter aussi les prix.
Ah, par contre, c'est ça qui est assez dingue, c'est que la Betclic Elite, l'année dernière, en début de saison, n'avait pas de diffuseur. Et quelques mois plus tard, ils sont diffusés sur l'appli de la NBA. C'est complètement fou, ça va très vite.
Attention, c'est pour ça, de pas trop non plus s'enflammer, en tout cas.
Oui, voilà.
En termes d'exposition, pour l'instant, c'est cool. Ça reste qu'une seule équipe, pareil, qui met en avance. Mais bon, si...
En vrai, je me dis aussi, ça peut mettre une vraie pression aux joueurs. Parce qu'ils se disent, bah, on nous regarde dans les États-Unis, quoi.
Après, on sait que voilà, il doit toujours avoir cette petite guéguerre à distance, hein, suite à ce fameux match programmé pour juste faire de l'exhibition et montrer ces deux joueurs. Je pense que voilà, ça reste toujours dans cette continuité-là de mettre la pression.
Et puis cette année, alors, du coup, c'est un peu l'inverse, mais du coup, il y aura un match de NBA en France.
Oui.
Donc ce sera à Paris.
Ouais, c'est Chicago contre Détroit, il me semble.
Ouais, c'est voilà. Souvent dans les espèces de tournées qu'ils font à travers l'Europe.
Je crois qu'ils ont...
En NFL, je crois qu'ils le font. En NHL, je sais plus.
Mais ils l'avaient fait à Londres, il y a pas longtemps.
Mais voilà, ouais, souvent.
NBA a fait à Londres.
Ouais, bah l'année dernière, il y avait eu à Paris aussi, je crois.
Ah oui, c'est
ouais, ouais, chose. Oui, l'année dernière, on en avait eu un.
Il y a 2-3 ans, je crois qu'il y
avait. Ouais, il y avait eu. Ouais. Paris, ouais. Eh bien, très bien. Donc voilà pour.
Il y a des prix exorbitants, par contre. Ouais.
Bah évidemment.
Il y a Louvre le 10 novembre, un truc comme ça. Donc...
Très bien. On va passer au tennis maintenant. Cette semaine, c'est l'effervescence du côté de Bercy avec le Paris Rolex Masters qui se tient à Corotel Arena. Les spectateurs parisiens pourront profiter d'un beau spectacle avec les têtes de série comme Nadal, Djokovic ou encore Alcaraz. Côté français, pas beaucoup de grands favoris, hein, pas de Gaël Monfils. Pas de Benoît Paire non plus, mais on peut compter sur Richard Gasquet et Gilles Simon, notamment lui qui dispute son dernier tournoi en carrière avant de tirer sa révérence sur les cours parisiens. Le tricolore a d'ailleurs retardé l'échéance en remontant un set au Britannique Andy Murray à l'occasion du premier tour, c'était hier soir. Et donc voilà, Gilles Simon qui va rester une fois de plus donc en carrière, entre guillemets. Son ultime match sera peut-être demain contre l'Américain tête de série française Tiafoe. Dans les résultats du jour, Moutet a rallié le second tour en s'imposant contre le Croate Coric, tandis que Rinderknecht s'est incliné contre l'Anglais Draper, tout comme Fonini, je vais y arriver, et Manarino contre Urkaj. Alors, il y a Richard Gasquet qui joue actuellement contre Casper Ruud, qui est tête de série numéro 3. Et actuellement, le Français a perdu la première manche 6-1 et 5-5 dans la seconde manche. Donc, voilà pour les Français du côté du Rolex Paris Masters.
Mais je crois que Moutet est un peu dans la panache vis-à-vis de la fédération. Apparemment, il serait expulsé de la FFT.
Ouais, ben c'est un mec qui est un peu fantasque, c'est un peu un Benoît Pierre-Bis.
Ouais.
Ben il s'est battu sur un court déjà. Il y a eu cette histoire quand même, il s'est battu sur un court avec son adversaire.
C'est ça, ouais. Donc il a bien été, en tout cas apparemment, il aurait été donc évincé à cause de son comportement.
Moi j'imagine que c'est sûrement celui-là quoi.
Voilà. En tout cas, ce qui est un peu étonnant, c'est que alors faudra voir un peu plus de détails parce que voilà, c'est une news qui est tombée quasiment avant qu'on prenne l'antenne. Mais lui, il se fait sortir. Alors après, il est encore jeune. Donc. Mais je trouve que si la Fédé l'exclut pour ça, ça va faire un peu jurisprudence avec le Caper qui a été quand même largement protégé.
Ouais,
alors apparemment, dans les premières choses qui ont été un peu évoquées, c'était l'évincement de la Fédération, c'est parce qu'il touchait des aides encore de la Fédé pour jouer les tournois et choses comme ça que Père n'avait plus. Donc,
ok.
En tout cas, voilà. Tant mieux, voilà, de prendre ça assez tôt, vu son âge, et voir si réellement ça va faire changer son comportement. Ouais, Père, apparemment, a décidé de changer de son côté.
Oui,
vu les dernières déclarations, il s'est peut-être rendu compte que voilà.
À Brest, il s'est un petit peu épanoui. Il y a eu cette histoire à Brest, il se sentait beaucoup mieux, ça allait mieux pour lui. Bah, tant mieux pour notre côté.
Et puis tu disais voilà que mon fils était absent, mais voilà, il a apparemment repris les cours cette semaine.
Mon fils qui est devenu papa.
Oui, entre-temps, oui.
Mon fils est père, enfin, oui. C'est fou. On s'en mêle les pinceaux.
Faut pas qu'il fasse une équipe. Hein,
ouais. Ouais, non. Ouais. Surtout que donc il y a en plus j'en ai parlé, mais il y a un nouveau joueur français qui s'est qualifié. Il s'appelle Fils. Son nom c'est Fils. Ouais. Ouais, donc c'est sans fin en fait. Ah, bref.
Ça fera double Fils si je joue. Ça.
Mon fils ensemble. Contre fils. Oh là là, l'enfer. Bref, donc voilà pour le Paris Rolex Master. C'est souvent un tournoi intéressant à suivre. Hein. J'aime bien l'ambiance.
C'est un
petit Roland Garros, quoi.
C'est ça, c'est le dernier tournoi, on va dire, avant
le Masters.
Le Masters, voilà, c'est un peu. Enfin, c'est préparation hein, pour.
Ouais, puis c'est
pour les joueurs, mais voilà, ça permet de désigner les derniers joueurs qui vont aller jouer le Master. Enfin,
ouais, carrément.
Mais c'est vrai que oui, c'est un tournoi qui est généralement bien apprécié.
Ouais, surtout du côté de la France.
Ouais, ouais. Ouais.
Justement, tu parlais des Masters, on va basculer vers le tennis féminin avec le Masters qui se déroule cette semaine à Fort Worth au Texas. Pour rappel, donc les tournois des maîtres ont lieu en chaque fin de saison pour se faire affronter les 8 meilleures joueuses de l'année. Parmi lesquelles une Française qui a beaucoup performé cette saison, Caroline Garcia. La Lyonnaise est dans une poule relevée avec Iga Swiatek, Coco Gauff et Daria Kazatkina, je vais y arriver, c'est très difficile à dire. Bref, son premier match aura lieu cette nuit contre l'Américaine Gauff. Donc voilà, on suivra aussi ce que fait Caroline Garcia sur cette semaine des Masters. Ça peut être intéressant pour elle. Donc voilà, même si c'est séparé récemment de son entraîneur. On va enchaîner avec le rugby rapidement. On vous a parlé de l'équipe de France féminine la semaine dernière à l'occasion de la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment même en Nouvelle-Zélande. Les Françaises se sont facilement défaites des Italiennes lors du quart de finale samedi dernier, 39-3. Les Bleus ont désormais rendez-vous avec les All Blacks néo-zélandaises. En demi-finale, ce sera samedi prochain à 7h30, heure française, au stade de l'Eden Park. On va parler de Formule 1 maintenant, Cédric. Est-ce que tu as vu le Grand Prix ?
Oui.
Oh, très bien. Donc, tu vas pouvoir nous donner un peu ton sentiment. Max Verstappen a montré ce week-end une fois de plus qu'il n'a pas d'égal cette saison en Formule 1. Le Néerlandais, déjà champion du monde 2022, a remporté son 14e Grand Prix de la saison, un record sur une année de championnat. Et Lewis Hamilton, qui est d'ailleurs maintenant 5e au classement des pilotes, a terminé 2e devant Sergio Pérez. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Grand Prix qui compte un peu pour du beurre ?
Ah, il y avait quand même des enjeux hein, pour les Red Bull. Hein. Il y a quand même la deuxième place à aller chercher pour
Pour Pérez.
Pour Pérez, j'allais dire pour Checo. C'est son surnom. Mais voilà. Ouais, mais bon, le départ.
Grand Prix du Mexique, c'est ça?
Grand Prix du Mexique, ouais. On sait que le premier virage arrive super tard, donc tout était possible dans cette première ligne droite. Ça s'est passé correctement, il n'y a pas eu trop de soucis. Mercedes qui avait moyen, qui aurait pu gagner un second prix, mais voilà, je ne sais pas trop s'ils ont fait une stratégie pour mettre en avant Hamilton et aller chercher cette fameuse victoire, puisque pour l'instant c'est un zéro pointé sur toute la saison, ça lui est jamais arrivé, au détriment de son coéquipier qui était quand même assez furax durant la course. Voilà, lui il aurait préféré les pneus à rainures rouges, donc je crois que c'est les pneus soft, voilà, qui étaient beaucoup plus performants. On lui a refusé et bah en fin de course, ils se sont un petit peu rendu compte que bah leur choix stratégique avait été mauvais, quoi. Donc ça a un peu gâché sa course. Il reste deux grands prix. J'espère qu'ils vont pas chercher absolument à ce que voilà, faut que Hamilton il ait une victoire, qu'il laisse quand même voilà les deux s'exprimer. Les Ferrari hélas absentes ce week-end, elles étaient là en dessous, donc
ouais.
Rendez-vous voilà au Brésil pour le prochain.
Et le dernier qui sera une semaine plus tard à Abu Dhabi.
C'est ça, oui.
Donc voilà, avec une saison. La saison, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est une saison quand même assez sans suspense. Donc, est-ce que si elle est sans suspense, elle est sans saveur, selon toi?
Il y a eu quand même du suspense. Hein.
Sur des Grands Prix.
Ah, même sur la saison, hein. C'est juste à partir du moment où Ferrari a fait des bourdes de choix stratégiques là que ça a été le chemin de
ils ont
paisible
peu,
pour les Red Bull, mais
c'est un peu n'importe quoi, quoi.
Mais voilà, enfin c'est tout au long des grands prix, il y a quand même eu toujours plus ou moins des petits enjeux, enfin.
Ouais.
Et après voilà, il y a eu la FIA, on en reparle en fin de saison, hein, on verra bien à ce moment-là pour tirer un bilan, mais voilà, il y a encore des décisions discutables cette saison. C'est un peu dommage.
Voilà, ça gâche un peu peut-être le plaisir. Décision comme ça, un peu comme
c'est ça, ouais,
parfois.
C'est...
Bref, donc voilà pour la Formule 1. Voilà, on a entre guillemets épuisé tous les sujets qu'on voulait parler. On va parler de ce qui va arriver prochainement cette semaine, notamment avec la Ligue des Champions. Ça, on en a déjà parlé. Il y a PSG Juventus qui arrive. Pareil, est-ce que c'est un match intéressant ou pas forcément?
Ah, il y a la première place à aller chercher.
Ouais. Mais du coup, d'un autre côté, ça veut dire que la Juve, la Juve doit aller chercher quand même l'Europa League.
La Juve peut peut-être se sauver pour la troisième place, ouais.
Ouais. Donc c'est vrai que ce sera un match intéressant, qui sera évidemment à suivre, puisqu'il y a toujours des enseignements dans ce que fait PSG. Le PSG qui est un peu en difficulté en ce moment, enfin qui prend beaucoup de buts en tout cas.
Ouais, un gardien qui est pas pour moi, qui est pas.
Ouais, Donnarumma.
C'est pas le gardien qu'on attendait, hein, Donnarumma. Ah. Ses performances, il est.
Pareil, j'en connais un qui n'est pas avec nous, qui est à Mont-de-Marsan et qui déteste Donnarumma et qui effectivement le trouve un peu surcoté.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils l'ont peut-être vu grand trop vite. Effectivement, il avait fait un bel euro avec l'Italie.
Meilleur joueur.
Voilà. Mais derrière, ça a du mal à confirmer, hein.
Ouais.
Et quand on sait que voilà, il y avait un gardien quand même assez solide, qui se retrouve même plus à jouer, ça peut poser des questions pour les huitièmes.
Ouais. Donc voilà pour le PSG. On va parler un petit peu de ce qui va arriver donc en fin de semaine. On va se quitter juste après avec le générique. Donc avec le programme notamment de ce qui va se passer au niveau du Maine-et-Loire entre guillemets, avec les différentes affiches sportives qui aura lieu donc sur Angers aux alentours. On en a parlé, donc il y aura match entre le SCO et Lens qui aura lieu donc samedi à 21h à Raymond Coppa. Donc voilà, pour ceux qui ont le budget d'aller à Raymond Coppa, voilà un peu pour vous. Et puis il y a surtout un match entre là on parle de basket, entre l'UFAB et Brno. Je crois que c'est une équipe tchèque. Donc ce sera demain à Jambouin. Donc voilà, ce sera aussi intéressant, un match d'Europe à Jambouin. C'est toujours bien d'avoir ça. Et puis on aura également donc Cédric l'a dit à Cholet. C'est un huitième, c'est un quart, c'est un huitième, je crois. Alors, un huitième de finale de Coupe de France entre les Ducs d'Angers et les Boxers de Bordeaux sur la patinoire de Cholet. Donc voilà, je crois que l'Étoile Angers Basket ne joue pas à domicile ce week-end. Mais donc voilà pour tout le programme.
Ça a l'air d'être le huitième.
Donc voilà. Donc voilà pour le programme de ce week-end. On vous aura tout conseillé sur les équipes angevines et aux alentours effectivement. On va se quitter avec le générique. Merci messieurs pour cette émission. Je pense qu'on va tous se tourner vers Marseille Tottenham maintenant. Et puis sur les autres matchs qui peuvent nous intéresser. On va vous laisser donc avec le générique. Puis juste après c'est Imaginaire. Et puis nous on se redit à la semaine prochaine. Également dans les futures semaines, on parlera un peu de Coupe du Monde. On fera sûrement une émission spéciale pour présenter un peu les équipes, parler aussi des scandales extrasportifs qu'il y a pu y avoir. Et puis peut-être, bon ça on ne sait pas encore, mais peut-être qu'on parlera de France-Australie le jour même. On vous en dit pas plus. On vous laisse avec le générique Imaginaire juste après. Et puis on vous dit à la semaine prochaine.